Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero pour cette édition d'Escale. Il n'y a pas de petits gestes. Refusons la pauvreté avec ceux qui la souffrent. Nous irons à la rencontre de personnes vivant dans la pauvreté, de militants et d'écoliers qui se sont tous réunis à l'ONU le 17 octobre dernier pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.
Je témoigne de vous pour que les hommes enfin tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère.
Le 17 octobre 1987, en présence d'une foule de 100 000 personnes rassemblées sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro à Paris, avec le père Joseph Wrzesinski, une dalle est inaugurée en l'honneur des victimes de la misère. On y lit « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». 5 ans plus tard, l'ONU décide de célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté chaque 17 octobre. C'est notamment l'occasion de donner de la visibilité et la parole aux personnes vivant dans la pauvreté et aux personnes qui œuvrent à leur défense. L'un des principaux organisateurs de la journée est ATD Carmonde, l'association de volontaires créée par le père Joseph Wrzesinski avec les familles de sa paroisse dans le camp d'hébergement d'urgence du Château de France à Noisy-le-Grand, où logeaient 252 familles dans une situation de précarité et d'isolement extrême. Le père Wrzesinski a promis aux familles de sa paroisse de faire gravir les marches de l'Élysée, du Vatican, de l'ONU. 30 ans plus tard, les membres de son organisation se retrouvent au cœur des cérémonies organisées à l'ONU pour la journée. C'est le cas d'Angélique Jeanne.
Je me souviens, enfant, arrivant à l'école le matin, l'institutrice obligeait ma sœur à se laver. Elle disait qu'elle sentait mauvais. Elle faisait tout cela devant tout le monde. L'institutrice me tirait les cheveux, m'humiliait.
Angélique est venue témoigner. Nous l'avons rencontrée lors de la cérémonie autour de la réplique de la dalle du parvis qui loge dans le jardin de l'ONU.
Je m'appelle Angélique Jeanne, je viens de Caen en France. Je suis une maman de 5 enfants et je vis dans le milieu de la pauvreté. Je suis fière et honorée et très heureuse de faire partie de cette grande famille qui a aidé. Mon combat à moi, il est pour tous les autres, c'est pour ça que je suis venue. Pour tous les gens du monde entier qui souffrent et qui subissent des injustices, des humiliations. Les parents, les enfants, tout le monde souffre. La misère, c'est vraiment un vrai fléau.
Parmi les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, il y a été question de comment l'assistance qu'on porte face à la pauvreté ou la misère a tendance en fait à déchirer les familles où les enfants sont séparés de leurs parents. Parmi les enfants qui étaient là, ils étaient très surpris aussi que ça se passe comme ça. Ça semblait une double injustice.
Mais oui, parce que partout dans le monde, on prend des décisions pour nous et on ne les prend jamais avec nous. Quand nos enfants sont confiés aux institutions, soi-disant pour protéger les enfants, c'est un vrai crève-cœur et pour les parents et pour les enfants. C'est une véritable injustice. On a le droit, comme tout le monde, de pouvoir élever nos enfants et avoir la chance d'être des parents.
Que dites-vous aux gens qui pensent que ces politiques, c'est en fait faire du bien pour des enfants et de leur donner une opportunité?
Non, c'est pas faire du bien à l'enfant, parce que la plupart du temps, les enfants, ils ressortent de l'école, ils savent ni lire, ni écrire. On leur donne pas leur chance non plus dans l'éducation. En fait, ils reviennent chez nous, et ben ils ont rien. Donc, vaut mieux qu'ils soient avec nous, et au moins les parents, ils sont là, derrière leurs enfants. Et qu'on me dise ce qu'on voudra, mais qu'on soit pauvre ou riche, on les aime, nos enfants. C'est la misère qui est violente, c'est pas les parents qu'il faut condamner là. C'est toute une famille qui est brisée quand on enlève des enfants comme ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme réponse plutôt que ces tendances à séparer les enfants?
J'aimerais déjà qu'ils discutent avec nous, qu'ils viennent chez nous et qu'ils viennent parler avec nous, dialoguer avec nous, chercher des solutions avec nous. C'est pas en prenant nos enfants que ça résout les problèmes. Au contraire, ça l'accentue. C'est pas le fait qu'un enfant soit placé qui va résoudre la situation, même pour eux, parce qu'eux aussi ils en souffrent.
Je m'appelle Antoine Atelier Anjous et ma réaction, je suis absolument choquée par la vie de ces gens. Comment un n'a pas de maison à lui tout seul, l'autre qui se fait arracher ses enfants et une autre encore qui est avec lui sans ses enfants. Je trouve ça assez choquant de voir que tous ces gens-là qui n'ont pas pu vivre avec leurs enfants, leur vie a été complètement détruite à cause de ça. Les enfants, c'est pour les avoir avec vous, c'est plein d'amour, pas pour se les faire prendre. Et à cause de cette misère, voilà le résultat.
C'est dur à croire qu'on porte un regard de jugement encore sur la pauvreté.
Mais oui, parce que tous les professionnels de l'enfance, on leur dit qu'il faut ne pas mettre de cœur, il faut rester professionnel. Et c'est ça qui détruit tout, un peu d'humanité. Nous, ils n'hésitent pas, c'est vrai, à nous humilier, à nous écraser, même des fois à nous effacer. Et des fois, on dit oui, les parents, ils sont démissionnaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ce n'est pas vrai. C'est l'institution qui fait que nous, on est démissionnaires, qu'on arrive à baisser les bras, parce qu'on a peur de tout, parce qu'on sait qu'on sera jugé sur tout. C'est la réalité, il faut vraiment que ça cesse. Voilà.
Je veux changer le monde.
Parmi les membres d'ATD Quart-Monde, on retrouve des personnes qui luttent contre la pauvreté sans pour autant l'avoir vécu. C'est le cas de Mamadou Koné, membre de l'association en Côte d'Ivoire.
J'ai rencontré le mouvement ATD Quart-Monde dans mon quartier en Côte d'Ivoire, à Boaké. Ils avaient l'ambition de donner les chances aux mêmes enfants de pouvoir apprendre. Et ils faisaient la bibliothèque de rue. Et étant enfant, ça m'a beaucoup marqué parce que je pouvais avoir accès à certains livres que je ne trouvais pas dans la bibliothèque de mon école. Et plus tard, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais tous les enfants doivent avoir cette même chance. Et après mes études, je me suis engagé comme volontaire pour faciliter aussi cela.
Vous avez parlé de témoigner d'intelligence et de courage. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter ce que vous tirez, ce que vous apprenez de ces échanges?
Comme je parlais d'intelligence et de courage, c'est vraiment très important parce qu'on a vu que les programmes qui sont mis en place pour soutenir les plus pauvres ne tiennent pas du tout compte de leur savoir-vivre et de leurs intelligences. On pense pouvoir connaître pour eux, on pense qu'on a la réponse aux questions que parce que les personnes en situation de pauvreté ne sont pas intelligentes. Donc on crée des programmes, on les impose des programmes. Et finalement, ce sont des programmes qui se retournent contre eux au lieu de les aider. Alors que les pauvres sont les personnes les plus à même de connaître leur réalité. C'est les experts de leur vie. Donc pour combattre la pauvreté, il faut demander à un pauvre.
Vous avez justement appelé à faire en sorte que chacun puisse se sentir membre de cette même communauté humaine. Comment faire ?
Pour faire membre de cette communauté humaine, ça demande à ce qu'on considère les personnes confrontées à la grande pauvreté comme des partenaires pour pouvoir bâtir notre société. On ne peut plus voir les personnes qui vivent dans la société comme des handicaps qu'il faut tirer pour aller vers le haut, mais construire la société avec leur intelligence et ne pas les laisser de côté. Parce qu'elles ne sont pas du tout considérées dans la société, elles sont toujours mises au banc de nos sociétés. Elles ne font pas partie de la communauté humaine. Et donc, faire communauté humaine avec tous, c'est considérer tout le monde comme capable d'apporter une plus à l'humanité. C'est la recherche aussi de notre propre humanité.
Faire partie d'une même communauté humaine, retrouver la dignité, apporter des réponses qui tiennent compte du savoir et de la réalité des pauvres, voilà les idées qui ressortent des diverses interventions lors de la journée. Patrick Lubin, militant d'ATD Quart-Monde, qui vit dans la pauvreté à New York.
Les papiers, quand on n'a plus rien, je ne vois même pas comment des fois les gens peuvent avoir, c'est qu'à le dire, même des vêtements, parce que là, l'extrême pauvreté, les gens n'ont plus rien, et quand on met les gens dans les shelters, on leur vole tout. Sauf, je ne pense pas que c'est avec des papiers qu'on sauve ou qu'on doit juger, mais je pense que c'est avec des vraies assistantes sociales, des vrais professionnels que on devrait avoir affaire, et des gens qui sont humains et qui sont là pour nous comprendre, parce que quand on est dans la pauvreté, on est détruit, et quand on est détruit, on n'a pas toutes nos facultés, ni mentales, ni physiques. On ne peut pas combattre de la même manière, c'est pour ça qu'on cherche quelque part où on peut s'agripper et se défendre, mais je dirais que les pauvres, la plupart du temps, ils se défendent avec l'honnêteté. Et je crois que c'est ça qu'il faut honorer, c'est l'honnêteté des gens et cette simplicité et ce courage admirable. Et on passe des barrières que je pense que quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne peut pas. Alors je pense qu'il faut arrêter avec les papiers. Il faut arrêter de prendre des enfants, des parents qui sont innocents parce qu'ils sont pauvres. À cause qu'on est pauvre, on nous enlève tout déjà, on nous juge, tout ça, on n'a pas le droit de nous juger. Comme on dit, on doit garder et respecter notre dignité. On est des êtres humains comme les autres et on n'a pas le droit de nous juger, de nous piétiner, de nous faire du mal. Moi, personnellement, je suis pauvre et je suis là pour respecter les uns et les autres et je suis là pour faire tout pour qu'on respecte les pauvres dans ce monde entier.
Les divers témoignages semblent avoir impacté les enfants qui assistaient aux cérémonies, comme Antoine que nous avons entendu tout à l'heure, Émilie Gâteau a tiré des leçons.
Il y a des gens, comme ils ont plein de choses et ils disent « non, j'ai pas assez, j'ai envie d'avoir plus », mais ils ne regardent pas de l'autre côté où il y a des gens où ils n'ont rien, ils n'ont même pas de maison et ils ne peuvent pas manger, ils n'ont pas d'eau. On ne devrait pas juste voir les choses qu'on a déjà, on devrait voir de l'autre côté les gens qui n'ont rien.
Est-ce que ça t'arrive de croiser des gens à New York que tu vois qui sont dans la pauvreté?
Oui, à côté de ma maison, il y a un monsieur.
Est-ce que ce que tu as entendu aujourd'hui change le regard que tu peux porter sur eux?
Oui, peut-être sourire quand ils nous parlent, d'être gentil et ne pas juste dire « ah tiens, de l'argent ».
Adrien Delva est un volontaire haïtien d'ATD Carmonde. Ingénieur de profession, c'est sa mère qui lui a demandé de réparer les habitats de familles très pauvres dans son pays en projet d'ATD. 26 ans plus tard, il reste accroché, il demeure à Haïti, c'est là qu'il se sent le mieux.
Quand je suis en Haïti, je me sens utile. Et le fait de me sentir utile, ça déjà m'aide à faire face, notamment à ce qu'on dit d'Haïti, que c'est un pays violent. Bon, mais que je sache, Haïti n'est pas plus violent que les autres qui sont à côté. Bon, et donc évidemment, ça m'aide. Et le fait de me sentir utile. Et par-delà tout, ceux qu'on généralement qu'on dit et qui sont la cause de la violence, souvent c'est avec eux que je travaille, avec les plus démunis. Et au bout du fil, et je sens que non seulement je fais quelque chose qui répond à ma conception, à mes engagements, et en plus, j'ai comme l'impression que je suis en train de mener un combat sur cette violence-là.
Est-ce que vous avez appris quelque chose par votre engagement auprès de ces familles?
Ah, j'ai beaucoup appris, notamment que ces familles ne sont pas aussi ignorantes qu'on le pense. Ces familles ont aussi un savoir et un savoir-faire. Bon, je dirais un savoir-faire perdu, parce qu'on ne les entend pas.
Et votre message, on se dit 7 octobre?
Il n'y a pas de risque dans le refus de la misère, à part celui d'aller vers l'autre et créer la paix.
T'as changé mon langue avec tes mains. T'as un monde qui pis bon.
Je m'appelle Martine Lecor et je suis de France. Je suis militante du mouvement depuis plus de 40 ans maintenant et je fais partie aujourd'hui de l'équipe de la délégation générale du mouvement ATD Carmonde. J'étais au parvis du Trocadéro en 1987 quand le père Joseph a scellé cette date en l'honneur des victimes de la misère et c'était pour nous une journée incroyable. On a eu cette sensation d'être révélé au monde ce jour-là, en fait. Et c'est resté pour nous une journée très importante.
30 ans plus tard, vous êtes ici à l'ONU pour marquer cette journée.
C'est ça. 30 ans plus tard, en fait, tout comme le Père Joseph nous avait annoncé. Aujourd'hui, on a monté les marches et on essaie au mieux de construire un partenariat, un travail avec des hauts fonctionnaires de l'ONU pour essayer de comprendre ensemble et d'amener la réflexion de tout le peuple du Carmonde, du peuple de la misère, pour faire entendre et comprendre en profondeur ce que c'est que la misère. Parce que, en fait, la misère, c'est une véritable violence faite à tous les peuples.
Est-ce qu'il y a des exemples de programmes qui peuvent justement réduire cette multiplicité de précarité et qui fonctionnent?
Je ne saurais pas répondre comme ça. Ce dont je suis convaincue, c'est si ton voisin ne prête pas attention à toi, tu n'existes pas. Donc en fait, je ne crois pas que ce soit forcément dans le sens de devoir inventer des tas de programmes, mais on doit apprendre à vivre ensemble, apprendre à se regarder, apprendre à se connaître et à se reconnaître, comme nous l'a dit Angélique ce matin.
Même dans des petits gestes, en fait.
Absolument. Il n'y a rien de petit, en fait.
Et c'est avec les paroles de Martine Necor que se referme cette édition d'Escale. Il n'y a pas de petits gestes, refusons la pauvreté avec ceux qui la souffrent. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info, présenté cette semaine par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.